Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Merci beaucoup à tous nos intervenants. Est-ce qu'on peut les applaudir très, 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 très fort? Merci de les encourager. Merci beaucoup, monsieur le professeur Arthur Yenga, secrétaire général académique de l'IFASIC. Merci, madame Rosiane. Dès la sortie de l'université. Bien, on va donner la parole à madame Hélène Gakourou. Comme je vous le disais, elle est directrice adjointe du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, dénommé FOGEC en sigle. Madame Hélène, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi le projet? Pouvez-vous nous parler de votre structure?
Je veux paraphraser notre étudiant pour dire que moi aussi, je suis parfumée de joie. Je suis parfumée,
elle est parfumée de joie.
Je suis parfumée de joie d'être parmi vous. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'est le FOGEC? Il a été posé une question, que fait le chef de l'État pour lutter contre le chômage? Une des questions qu'a fait le chef de l'État, c'est de créer le FOGEC. Le FOGEC sert à quoi? Le FOGEC est un établissement de crédit qui a été mis en place, un projet du chef de l'État, qui a été mis en place pour, normalement, apporter d'abord de la garantie aux entrepreneurs. Il a été remarqué que la plupart d'entrepreneurs n'arrivaient pas à accéder à avoir du crédit dans les banques. Pourquoi? Parce qu'il leur a été demandé d'avoir des garanties qui étaient assez élevées. Je ne veux pas vous parler de ce produit ici parce qu'on est dans un milieu universitaire. Je veux vous parler d'un produit qui vous concerne. Parmi les produits que le FOGEC a également, nous avons un produit pour les femmes et pour les jeunes. Les jeunes, essentiellement, pourquoi? Tous ceux qui ont des start-up. Alors, nous offrons, on a parlé de business plan, si vous avez un projet innovant, un projet qui vous tient à cœur, on va en revenir, hein. Qui de mieux de parler de l'entrepreneuriat qu'un entrepreneur? Nous avons à côté de nous Madame Ticia qui nous parlera. C'est une des entrepreneuses que nous avons rencontrées lorsque nous avons été nommées, qui a un parcours qui va vous encourager. Alors, pour notre part, que fait le FOGEC? Vous avez un projet, venez. Ouvert uniquement aux Congolais, pas aux expats. Parce que nous avons remarqué quoi? La plupart des expats, ce sont eux qui sont en train d'émerger, mais que font les Congolais? Ils sont en train de pouvoir toujours se rabaisser. Au FOGEC, nous vous ouvrons nos portes. Vous avez un projet? Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur? Vous avez un ressenti au niveau de l'entrepreneuriat? Vous êtes prêt à vous brûler les ailes? Parce que je pense qu'on vous le dira, pour faire l'entrepreneuriat, ce n'est pas la gaieté. Si vous êtes prêt à vous brûler les ailes pour plus tard, ensuite, avoir des ailes pour survoler plus haut, venez au FOGEC avec des projets. Nous vous ouvrons nos portes.
Et vous financez les projets jusqu'à quelle hauteur?
Alors, pour les projets du genre des projets pour les start-upers, des projets des fonds d'amorçage ou des subventions, il est précisé que nous ne donnons pas des fonds gratuits. Comme je disais, au niveau de l'entrepreneuriat, il faut savoir risquer. S'il faut risquer, il faut avoir déjà cette culture, avoir du crédit. Nous vous donnons un financement qui est un prêt, qui est d'une durée de 1 année à 3 ans, mais à un taux qui bat les records, que vous ne trouverez nulle part. Vous avez 5% long avec nous pour un montant qui va de 5 000 à 50 000 dollars. Si vous avez des projets qui sont dans cette fourchette, établissant un produit, établissant un projet, établissant un business plan. Je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit. Il y en a qui ne savent pas établir des business plans. Aujourd'hui, vous avez des structures qui peuvent vous accompagner. Vous avez l'idée, vous avez le projet. Établissant un business plan, venez chez nous et nous vous ouvrons vos portes.
Bien, merci. On va donner la parole à Madame Ticia Mukuna, PDG de Café La Quinoise. Vous êtes entrepreneur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez-nous de votre expérience. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat jusqu'à créer votre structure à dénommer Café La Quinoise? Comment? Alors, tout cela a commencé?
J'avais préparé une intervention, mais pas du tout la question que vous venez de me poser. Bon. Je m'appelle Ticia Mukuna. J'ai lancé une marque de café qui s'appelle La Quinoise. La Quinoise a une particularité, c'est que la plantation est à Kinshasa, à Mongafula plus précisément. Et c'est le seul café qui pousse ici à Kinshasa. J'ai créé ma marque. Puis j'ai distribué à Kinshasa, maintenant je suis aussi à Matadi, à Boma, à Lubumbashi, également à Dubaï et si Dieu fait grâce le mois prochain à Brazzaville.
Comment tout cela a commencé? Voilà, en nous parlant de l'entrepreneuriat, comment vous êtes lancé alors qu'on sent qu'il y a beaucoup de difficultés à entreprendre ici?
Alors, si on va parler d'entrepreneuriat, il faut parler d'abord de l'entrepreneur. Donc, permettez-moi d'être très large dans ma réponse, puis après arriver à un peu plus en détail, parce que j'ai préparé 5 points. Déjà, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main pour que je vois à peu près le pourcentage?
Ah bon, on a déjà des entrepreneurs ici.
Un bon 40% d'entrepreneurs. Ok, très bien. Donc, je vais poser différentes questions.
Entrepreneurs politiques. Ben, on a beaucoup de politiciens ici, quoi.
Il y a beaucoup de politiciens lifastiques en général. Donc, je vais poser des questions comme ça et aux entrepreneurs ou ceux qui ont même des idées de projet, vous allez répondre en toute honnêteté. Si aujourd'hui, les entrepreneurs, ceux qui ont une idée de projet, je vous propose un travail à 2 000 $ par mois, qui va laisser son entreprise? Levez la main, qui va laisser son entreprise?
Comment? Vous n'avez pas bien compris la question?
Impossible de combiner avec votre projet. C'est 2 000 $ par mois, vous travaillez chez moi, vous n'avez plus le temps pour votre projet, vous laissez votre projet. Qui laisse le projet?
Qui vont abandonner le projet pour aller gagner 2 000 $ par mois? Comment? Vous allez jeter le projet,
oui, 2 000 $ par mois.
Vous et aller gagner 2 000 $.
Ok. J'ai maintenant une autre question. Si je trouve que votre projet est très bien et je vous propose 5 000 $, une fois 5 000 $, vous me donnez votre projet, toutes vos idées, vous me donnez.
Ça passe pas? Eh bien, c'est non.
Si je monte à 15 000 $, vous donnez votre idée? Bon.
Ben, certains sont prêts à abandonner, d'autres non.
C'est ça. Voilà. En fait, tout ça, j'aimerais parler surtout de l'entrepreneur que nous sommes et l'entrepreneur, les jeunes entrepreneurs que nous avons. Je vais vous parler d'une histoire que je parle souvent pendant les conférences. Pour ceux qui m'ont déjà vu dans des conférences, vous la connaissez. C'est l'histoire d'un gars qui avait une super idée de faire un groupe électrogène qui fonctionne avec de l'huile végétale. Une très belle idée. Il pouvait devenir millionnaire parce que son groupe électrogène peut se vendre ici au Congo, partout en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud. Donc, super idée. On cherche des financements, parce que je suis également à la FEC. On cherche des financements et on arrive à lui trouver 30 000 $. Il va, il prend les 30 000 $, subvention, hein, donc pas à rembourser. Vous savez ce qu'il a fait avec les 30 000 $? Range Rover. Il a acheté une Range Rover. Ça, c'est l'entrepreneur bling bling. Ça veut dire
c'est
un entrepreneur.
C'est son véhicule de rêve.
C'est un entrepreneur qui veut avoir l'air d'être un patron, c'est tout. Parce qu'on est dans un monde d'apparat, il faut apparaître comme un boss, apparaître comme un patron. Donc voilà, il a eu son argent, il n'a pas investi, il a acheté sa Range Rover. Puis on a l'entrepreneur par défaut, d'où les questions que je vous ai posées au début. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un diplôme, mais qui ne trouve pas d'emploi, donc il décide d'entreprendre. Ce n'est pas parce qu'il a envie d'entreprendre spécialement, c'est parce que juste le marché du travail n'est pas intéressant. Ensuite, on a l'entrepreneur, on va dire ça, par opportunité. C'est quelqu'un, si l'oncle a un magasin de vêtements, lui il décide d'avoir sa petite boutique de tailleur pour accorder les vêtements. Si l'oncle a un magasin de voitures, lui il va commencer à vendre des pneus ou des moteurs. Donc c'est quelqu'un qui est là par opportunité. Il saisit un peu les opportunités. Et enfin, il y a l'entrepreneur qui a une vision. Quelqu'un qui ne va pas vendre son entreprise, même pour 15 000 $. Quelqu'un qui ne va pas laisser son entreprise, même pour 2 000 $ par mois, parce qu'il a une vision et sait où il va. Avec la Quinoise, je suis passée par tous ces stades d'entrepreneuriat. J'ai été une entrepreneur bling bling. Je me suis brûlé les ailes. J'ai été après l'entrepreneur par opportunité. Ah, le café pousse, allons-y seulement. Puis après, j'ai été une entrepreneur par défaut. Je ne trouvais pas mieux. Et enfin, l'entrepreneur qui a une vision, qui sait où elle va et qui met en place des objectifs et des baby steps, où je sais que voilà, dans un an, je vais aller là, dans deux ans, dans trois ans, etc.
Alors,
et le seul entrepreneuriat qui marche,
oui,
c'est l'entrepreneuriat par vision. C'est le seul qui dure, c'est le seul qui marche.
Alors, est-ce possible d'avoir des étudiants entrepreneurs?
Mais bien
sûr.
Ou
il faut attendre après les études pour entreprendre?
La seule chose qu'il faut pour entreprendre, c'est être organisé. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est une vie très compliquée. Chaque jour ne se ressemble pas. Aujourd'hui, je suis avec vous. On est en train de parler de l'entrepreneuriat. Demain, je serai peut-être à la plantation. Après-demain, c'est dimanche. Bon, je serai sûrement chez moi. Lundi, je serai sur un bureau chez le distributeur. Donc, il faut être organisé. Quand on a une idée d'entreprise, la première chose qu'il faut avoir, c'est un cahier. À chaque fois que je dis ça, les gens sont là, ils sont étonnés. Non, il faut avoir un cahier. Vous notez, voilà mon idée. Où je serai dans un an? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça dans un an? Quels sont les objectifs que je dois atteindre? Etc., etc. À qui s'adresse mon produit? Qui sont mes clients? Qui sont mes concurrents? À combien je peux vendre mon produit? Tout ça, on met ça dans un cahier et on développe notre affaire d'abord dans un cahier.
D'accord. Coach Eugène Candolo, pour entreprendre, par où commencer une idée innovante? Après, c'est le plan d'affaires. Comment, parlez-nous de ces processus-là.
Bon, je crois que Mme Ticia était en train de donner un modèle aussi taillé sur son parcours, parce que c'est très important de partir des exemples personnels pour
nous les micro. Ok, voilà. Mais comme je le dis, autant elle a donné quatre types d'entrepreneurs, il y a plusieurs façons de commencer l'entrepreneuriat. Il n'y a pas du prêt-à-porter. Et autant plus que dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que le FOGEC insiste sur des projets innovants, donc il y a une orientation bien déterminée, mais il y a quatre types d'activités quand on entreprend. C'est vrai qu'eux, ils ne financent pas du tout ou presque pas ceux qui font le commerce. C'est une première activité de l'entrepreneuriat, achat et vente. Donc, et elle est aussi ancienne que le monde l'est. Donc, tu peux acheter au prix de gros et puis tu revends au détail. Tu peux acheter une quantité bien déterminée, tu revends. Donc, il y a des gens qui vont au grand marché, ils achètent des choses, ils revendent. Ils se font de bénéfices dès lors qu'ils peuvent rendre service à ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller se perdre dans ce labyrinthe du grand marché. Donc, ils rendent un service et ils sont
donc,
dans une activité.
Les étudiants peuvent venir vendre des stylos, des papiers
les
ici.
Les étudiants peuvent imaginer ce qu'ils peuvent vendre. Alors, deuxièmement, il y a cette activité, et ça, c'est dans cette activité que Ticia est, c'est dans transformation et vente. Donc, elle part d'un certain nombre d'éléments qu'elle va transformer pour avoir le produit fini qu'on appelle café la quinoise et qu'elle va vendre. Et on est dans le domaine de l'industrie. Ça commence déjà au coin de nos avenues avec les mamans qui font des beignets. Parce que c'est un assemblage du sucre vanillé, de farine de fromage, du sel, de l'huile, et on fabrique quelque chose qu'on appelle beignet. On peut partir de petite échelle jusqu'à grande échelle. Tout est dans la vision. C'est comme ça. Je l'ai dit avant qu'elle ne vienne et elle a repris. Si vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas une tracée de ce que vous voulez être, ça veut dire que vous allez commencer à faire des choses comme par saison, juste parce qu'il faut le faire. Avec le peu de beignets qu'on peut avoir en partant, je ne sais pas moi, d'un capital de $20, on peut se construire une carrière en affaires et industrialiser cela. Donc il y a plusieurs exemples du domaine qui peuvent corroborer l'idée des activités de la transformation et vente. Et troisièmement, il y a les services. Les services ne demandent pas souvent, je ne dis pas tous les services, ne demandent pas souvent qu'on puisse avoir déjà un capital de départ. Parce que dans la catégorie des services, vous verrez qu'à côté de moi, les dames ont, vous voyez,
quoi,
certaines
autres
se maquillent elles-mêmes, mais il y a oui, ceux qui maquillent. Pour coiffer les gens, tu n'as pas besoin d'un capital. Donc la personne amène sa gilette et son argent. Toi, tu coiffes pour tresser les cheveux. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est célèbre juste parce qu'il est dans la coiffure. On l'a chanté même dans la musique, Salon Franck de Bruxelles. Ça veut dire qu'en fait, tout est question de l'imagination que tu as et de ce que tu veux construire comme carrière par rapport à la vision. Et puis, quatrièmement, il y a cette activité que j'appelle créativité et vente. Et dans ça, on voit l'industrie culturelle. Donc, il y a des gens qui imaginent, qui font des tableaux. Et les tableaux, les œuvres d'art n'ont jamais de prix fixe. Donc, une œuvre d'art que quelqu'un d'autre peut acheter à 100 dollars, quelqu'un d'autre peut acheter à 3000, tout dépend de comment l'artiste se définit et se projette. Donc, il peut construire son modèle d'affaires par rapport à ça. D'accord. Mais seulement, parce que je profite pour faire un clin d'œil à la question du plan d'affaires. Quand est-ce que le plan d'affaires devient incontournable et indispensable? Il y a des projets qui doivent être financés. Il y avait le FNM, maintenant il y a le FOGEC. Ça veut dire qu'on va t'obliger à avoir une idée coulée sur papier, mais avec un certain nombre d'étapes. Et il y a des experts pour ça. Moi qui vous parle, je suis certifié GERM par l'OIT pour accompagner les gens dans la construction du plan d'affaires. Mais le plan d'affaires n'est pas un must pour d'autres types d'entrepreneuriat. Parce que tu peux t'en passer de ça. Le plan d'affaires est destiné le plus souvent à celui qui doit te financer.
Et
c'est vrai que ça peut t'aider aussi pour orienter, mais tu peux faire une petite boussole, un petit canevas pour toi. Parce que quand on parle de plan d'affaires, il y aura la comptabilité, il y aura un certain nombre d'éléments.
Il faut d'abord faire une étude du marché, connaître les secteurs.
Mais l'étude du marché, c'est pour tout. Donc, il n'y a pas que pour le plan d'affaires. Parce que même quand tu veux faire le commerce, je donne toujours cet exemple. J'ai un frère à moi, on lui a donné 2 000 $ parce qu'il a fait 3 ans et il n'avait pas du boulot. Ma soeur lui donne 2 000 $ pour qu'il commence une activité. Il est économiste, il va faire une pharmacie. Un mois après, il ferme.
Pourquoi il a fermé?
Il n'a pas de trafic. Et pourtant économiste, donc il n'a pas fait l'étude du marché. D'accord. Il n'a pas compris l'environnement dans lequel il voulait commencer son activité. C'est très important. Dans n'importe quelle activité entrepreneuriale, tu dois étudier. Moi, une des branches, le cas possible, c'est l'édition du livre. On te dira que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, particulièrement à un Congolais, il faut mettre dans les livres, parce que les livres ne se vendent pas. Mais moi, je suis à mon 4e livre et je suis au 9e livre édité d'autres personnes dans la maison d'édition cas possible et je me fais de l'argent. D'ailleurs, très bien, parce que les livres se vendent, mais tout est question de quelle est la vision que tu as et comment tu parviens à créer ton business model. Ça veut dire le canal qui te permet d'identifier tes potentiels acheteurs, le prospect, et comment tu vas leur faire parvenir ton service et comment tu vas tirer de bénéfices par rapport à ça. Et c'est comme ça que je dis que ce n'est pas du prêt-à-porter, ce n'est pas par baguette magique, et c'est très important. Il y a des notions qui sont qu'on peut retrouver partout, mais il y a des expériences personnelles qui font que la personne adapte son marché par rapport à lui. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pas un monde du genre dans tous les contextes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, tu peux faire le même processus que Madame Ticia et ton café n'atteint pas le même résultat. Donc il faut savoir aussi tâter ton propre marché, parce que la réalité du marché, c'est deux choses. Il y a le marché comme entité physique où on rencontre les vendeurs et les acheteurs, mais il y a le marché comme endroit immatériel, irréel, où toi et tes potentiels acheteurs vous rencontrez. Et ça, c'est très important. Et c'est sur base de ce marché-là que tu consolide ton propre business model, ça veut dire la manière dont tu vas vendre et comment tu vas te faire de l'argent et la catégorie des gens à qui tu vas vendre cela.
Bien, merci coach Eugène Candolo. On va recueillir les questions. Vous avez dit qu'il y a plusieurs entrepreneurs ici. Vous voulez, ok. D'accord,
oui,
allez-y.
C'est très intéressant parce que ce qui a été dit, c'est sur la vision, mais j'ai vraiment envie d'insister sur ça, sur le fait de mettre en place un plan d'action. Et pour ça, permettez-moi de donner un exemple. Qui est le meilleur footballeur en ce moment?
Qui est le meilleur footballeur
Benzema.
Actuellement? C'est qui? C'est qui le meilleur footballeur actuellement?
Bon, on va dire Benzema.
Bon, Marcel, tu peux donner un micro, que quelqu'un nous dise qui est le meilleur footballeur, parce que là... Benzema. C'est qui? Benzema, voilà, Benzema. On parle de Benzema.
Bon, prenons Benzema.
D'accord.
Ok. Prenons Benzema.
Benzema, d'accord, allons-y.
Imaginez, Benzema est donc un footballeur. On a dit le meilleur footballeur du moment. Vous demandez à Benzema de jouer au football avec une balle de tennis sur un terrain de golf, il ne va pas bien jouer. Et pourtant, c'est le meilleur footballeur. Un entrepreneur, et d'ailleurs, il va encore mieux jouer s'il a ses coéquipiers, les Ronaldo, les Neymar, toutes les personnes que vous avez citées. C'est la même chose avec un entrepreneur. Un entrepreneur, même avec la meilleure idée du monde, s'il n'a pas l'écosystème, s'il ne s'est pas mis un cadre, une vision, un plan d'action, des objectifs clairs, il va comme ça se lever tous les jours sans savoir ce qu'il fait et au hasard. Et un entrepreneur doit aussi avoir des collaborateurs. J'ai beaucoup trop rencontré des gens qui prennent le frère, la copine, l'oncle,
la cousine,
tout ça comme des collaborateurs, mais ils ne sont pas qualifiés et ils vous emmènent nulle part. C'est d'ailleurs même eux qui vous motivent à acheter la Range Rover. Donc il faut prendre des gens qui peuvent vous emmener loin. Moi, par exemple, pour parler de l'IFASIC, j'ai Jesper Labunda, qui est professeur assistant ici, avec qui je collabore très régulièrement. Et il faut prendre les gens comme ça qui ont des compétences. Et je ne me suis pas associée avec Jesper parce qu'il est gentil, mais parce qu'il a des compétences. Et voilà, c'était le dernier point.
Mais comment vous avez eu la vision de Café La Quinoise? Comment c'est arrivé?
Déjà, pour avoir une vision, il faut savoir ce qui nous différencie des autres. Avoir une plantation à Kinshasa, ce n'est pas suffisant. Entre nous, on va même dire que les gens s'en fichent. Avoir une plantation à Kinshasa n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est voir, ok, je sais qu'il y a 40 ans, le Congo était l'un des premiers pays exportateurs de café. On ne l'est plus, pourquoi? Qui est dans le game du café? Oh, il n'y a que des étrangers. Donc, c'est-à-dire que où sont les autres Congolais? Et c'est là où on commence à avoir la vision. Ma vision, c'est de mettre en avant le Congo dans le monde du café comme c'était avant. Et je fais tout mon... Merci. Et je vais faire toute ma stratégie pour cette vision-là. Maintenant, je vais prendre des collaborateurs qui ont compris la vision. Parce que vous allez même mettre avec des collaborateurs qui sont compétents, mais à tout moment, ils vont prendre votre stock, le vendre à un Turc, et puis c'est fini. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir des gens qui partagent votre vision et vous avancez ensemble. Et surtout, avoir un agenda. Je sais que dans un an, je dois être à Brazzaville. Dans deux ans, quoi qu'il arrive, je dois être aux États-Unis, par exemple. Dans trois ans, je veux 100 nouveaux emplois. Donc, si vous avez ces objectifs-là, c'est plus facile, Madame Rosane l'a dit, on ne va pas sauter directement au septième étage, que se dire, non, dans cinq ans, je veux être millionnaire et avoir cinq maisons à la Gombe. Ça n'existe pas.
D'accord, merci. On va recueillir les questions.
Bonjour à tous. Je réponds au nom de Elvodis Malangou. Je suis en L1A LMD. Ma question est posée, Madame Tissia.
Ouais. Oui.
Madame Tissia, moi je suis pour ce que vous avez dit, qui peut abandonner son projet pour...
$2,000.
Pour $2,000, je suis prête. Pourquoi?
Tu es prête à abandonner ton projet?
Oui, oui.
D'accord, pourquoi?
Oui, ben, je m'explique, je dis le pourquoi. Parce que, tel que je suis là en sixième primaire, en sixième deuxième année plutôt, avant d'être à l'université, j'étais en train de vendre les boudins. En fait, c'est ce qui m'a permis de payer d'autres choses que mes parents étaient impossibles de le faire. Donc, je voulais juste de mes parents. Bon, incapable en fait.
Tu vendais les boudins ou ça?
À l'école, je vendais ça à l'école.
Ok, à l'école.
Et là, je commençais à faire de yaourt, les yaourts et le jibaoba. Mais vous imaginez que moi, je viens ici à l'université. En rentrant, tout c'est fini. Vous demandez la question, on dit que oh, ce n'est pas nous. Donc, vous trouvez qu'on a déjà tout mangé. Maintenant, vous vous dites...
Qui a mangé tes yaourts?
Je ne sais pas. Maintenant, vous dites, maintenant, vous voulez être entrepreneur. Parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, je vais être journaliste. Journaliste, faire la politique parce que j'adore beaucoup la politique. Mais il y a d'autres cas qui se présentent. Vous vous dites que vous devez quand même aider votre parent. Parce qu'à notre âge, on ne peut pas toujours dépendre de nos parents. Même pour acheter de petites choses et tout. Maintenant, tu t'es dit, on a déjà tout mangé, qu'est-ce que tu vas faire? Et je vendais aussi de chemises. Le monsieur prend ça et puis t'es dit, elle vous dit, patient, toi tu es de la famille, yo moi l'andako. Vous voyez des trucs pareils. Comment pouvez-vous être entrepreneur tandis qu'à la famille, ça ne va pas?
Voilà, comment être entrepreneur si on mange tes boudins à la maison? Alors, un autre intervenant.
Je suis Marcus Salomé, étudiant en deuxième année graduée à, et je suis également membre de l'IFASIC Corporate et également membre du club leadership de l'IFASIC. Alors ma question s'adresse directement à Madame Tissia par rapport à l'entrepreneuriat industriel, le cas du café et tout ça. Je connais quelqu'un, je ne cite pas de son nom, je connais quelqu'un qui est buté à un problème de production. Il a une vision de créer une savonnerie, mais malheureusement, en termes de matériel, il n'y en a pas vraiment assez pour soutenir son projet. Alors, que faire pour arriver à créer son entreprise, arriver à l'entrepreneuriat industriel, si on est buté? Ma deuxième question également s'adresse à vous, madame. Par rapport à l'élaboration du projet, quelles sont les astuces qu'on peut avoir maintenant là pour bien élaborer un bon uniforme, un projet, d'autant qu'on a une vision pour arriver à la réalisation de notre entreprise?
Je dis, j'essaie de respecter la parité. Hein.
D'accord.
Voilà, merci. Je suis Dorcas Boyeli, étudiante en première licence communication des organisations. Ma question s'adresse à madame la directrice de FOGEC. Nous faisons face à une situation à laquelle, lorsque je conçois un projet, et lorsque le financement se présente, le projet change d'orientation. C'est-à-dire, le projet quitte le concepteur pour profiter à une tierce personne. Que faire devant une situation atypique?
Un exemple précis. Vous avez un exemple?
Oui, oui. J'ai un frère qui a conçu son projet.
Quel projet?
Créer une entreprise pour la vulgarisation des informations au profit d'une structure dont je ne cite pas le nom.
D'accord.
Il a présenté son projet à une structure. Au moment où le financement s'est présenté, il avait perdu le marché.
D'accord. Quelqu'un d'autre?
Merci pour la parole. Je réponds au nom de André Junior Moumaka. Je suis étudiant en première année de licence en journalisme politique extérieur. Alors, ma question est adressée à Madame Ticia Mukuna. Madame Ticia, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a moins de 5% des faibles taux de projets des PME admis au code d'investissement. Alors j'aimerais que vous puissiez nous dire quelles sont les causes de ces faibles taux des projets des petites et moyennes entreprises admis au code des investissements. Merci.
D'autres questions?
Je suis Sadi Saïdi Eric, étudiant L1. Bon, ma question est de savoir, je sors de l'université, je n'ai rien comme argent. J'ai un projet. Maintenant, arriver aux gens à qui vont me donner le marché, ils m'obligent d'avoir un compte. Par exemple, mon projet coûte 5 000 $. Et me dit que non, verser à la banque donc la moitié des 5 000 $. Au moment où moi je viens de l'université, je quai des syllabus, je n'ai pas d'argent.
Merci. Il n'a que les syllabus, il n'a pas d'argent.
Non, toi, t'avais déjà posé.
Bien, là-bas derrière.
Une dernière question pour cette première vague. Non, ouais.
Merci, je suis Joël Ekoutou, étudiant en première année de licence, journalisme et politique intérieur. J'ai des petites préoccupations dont les cibles sont bel et bien définies. La première préoccupation est que quelles sont les causes qui sont à la base du chômage des cadres universitaires dans la ville de Kinshasa? Cette question, je l'adresse directement au coach compte tenu de son expertise.
Bon, maintenant, on a déjà terminé la première partie, le chômage. Maintenant, c'est l'entrepreneuriat. Okay. On est dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une question?
Je passe
par rapport à l'entrepreneuriat.
Exactement. Je passe à la deuxième question. C'est une question directe à madame la directrice du FOGEC. Madame, est-ce qu'il y a une modalité qu'il faudra remplir avant de bénéficier d'un fonds auprès du FOGEC? C'est ça ma petite préoccupation.
Bien. Marcel, on peut peut-être ajouter deux questions là derrière.
D'accord.
Et puis, on va donner la parole aux intervenants ici. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. Je réponds au nom de Jerry Choma. Je suis en deuxième licence, communication stratégique des organisations. Alors, je vais poser ma question à la dame, j'ai oublié le nom, de Café Congolais, Café Quinoise, je ne sais plus.
Madame Ticia Mukuna, okay, Café d'accord. Congolais, non, Café La Quinoise.
Ah, ok, d'accord. Je m'excuse, madame. Café La Quinoise, d'accord. Alors, j'ai qu'une seule préoccupation. nous faisons les sciences de l'information et de la communication ici à l'IFASIC. Si vous êtes confronté à une situation où vous avez fini en SIC et que le champ entrepreneurial où vous ne savez plus comment entreprendre ou créer quelque chose qui varie par rapport à la faculté que vous avez faite. Je donne un exemple clair. Vous avez fini à l'IFASIC, mais vous devez entreprendre en mécanique. Quand vous êtes confronté à cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Merci.
Une dernière question avec une dame.
Alors, merci beaucoup pour la parole. Je suis Laurentine Bonguessa, étudiante en communication des organisations et entrepreneur. Ma question s'adresse à Madame Gankourou, je crois, celle du FOGEC.
Madame Hélène, oui.
Madame Hélène. Alors, vous aviez dit que vous accompagnez les entrepreneurs, parce que je suis sur votre page, vous aviez dit que, il y a un slogan, vous avez dit que la création des millionnaires congolais n'est pas qu'un slogan, mais une réalité avec le FOGEC. Dites-moi, après avoir, lorsqu'un entrepreneur vient chez vous pour avoir un prêt ou un crédit, vous lui donnez de l'argent en liquide ou vous l'accompagnez à matérialiser son projet? Est-ce que après avoir signé ses contrats, vous ne prenez pas des parts d'action dans son start-up ou c'est sans intérêt en tout cas? Merci.
Bien, merci pour toutes ces questions. Madame Hélène, on commence avec vous.
Oui, je veux commencer avec la dernière question. La création des millionnaires n'est pas un slogan. Nous voulons, en tout cas le DG et moi, et tout le conseil d'administration, nous aimerions voir Laetitia. Nous aimerions voir de madame qui vendait
les
des yaourts,
et les boudins.
Qui bouvait des boudins, voilà. Nous aimerions voir des millionnaires congolais. Comment le faire? Je vais essayer un peu de... Certaines questions seront regroupées. Nous donnons des crédits à des personnes à qui les banques ne font pas confiance. Aujourd'hui, nous avons été à l'USAID il y a 2-3 jours. L'USAID a mené une étude où le marché de l'agriculture n'était pas financé par les banques. L'USAID a mené une étude, ils ont créé, ils ont formé. Et aujourd'hui, le marché, 5 ans après, le marché de l'agriculture est actuellement ouvert aux banques. Il y a au niveau de l'Est, il y a des agriculteurs qui sont en train d'expatrier, qui sont en train d'exporter au niveau des États-Unis directement. Alors qu'avant, ça passait par le Kenya, le Burundi, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le FOGEC s'inscrit dans cette même lignée. On s'inscrit dans cette même lignée. Comment? Il y a un monsieur qui a dit qu'il a, par exemple, excusez-moi, c'est qui a eu des problèmes. Il a de l'intelligence, mais il ne sait pas investir. Il ne sait pas comment avoir des machines. Aujourd'hui, nous avons financé plus de 10 entrepreneurs. Ces entrepreneurs ont déposé tous leurs dossiers. Modalité, je reviens, aucune modalité. Vous avez juste besoin d'être congolais. Nous vous faisons confiance. Nous faisons confiance aux Congolais que vous êtes. À la seule et unique condition, comme a dit mes voisins ici, votre vision. Êtes-vous prêt? Parce que c'est bien de proposer un projet. Effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit. On te donne un produit, on te donne un prêt. Nous l'avons vu. Excusez-moi, j'ai été nommée quelque temps. Il y a une dame qui m'appelle. Madame, je viens faire une dénonciation. Dénonciation, c'était, je crois, pour les produits pas d'un PME. Il y a une personne qui a présenté un projet qui n'était pas son projet. Et l'argent a été pris, a été détourné. Donc, moi, j'ai un projet, il a un projet, mais j'ai pas les. Lui, il a la connaissance. Il vient avec la connaissance, mais c'est mon projet. Et on le finance. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a l'intelligence a pris l'argent, il est parti. Ou indirectement, ou de façon directe. Il y a une personne à qui vous donnez du projet, on vous donne de l'argent, mais c'était 50 000. Nazang à Dubaï. Oh, comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet argent, il va à Dubaï. Vous voyez, il a détourné ses fonds. En ce moment-là, cet argent qu'on vous donne, est-ce que ça va servir? Ça ne va pas servir. On a besoin d'avoir ces entrepreneurs. Alors, pour y arriver, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des experts, nous avons des... J'ai dit modalité, pas de modalité. On est tous d'accord. Il y a un projet qui est bien présenté avec un business plan. Il y a déjà un marché très bien ouvert qui est déjà fourni par mon voisin de droite. Vous présentez un dossier qui est bien établi, nous envoyons des personnes qui descendent sur terrain, qui vont analyser, qui vont poser des questions. Et si ce projet est finançable, nous le finançons. Et dans 10 ans, 20 ans,
L'idée, c'est quoi? Ce n'est pas que vous ayez tout le temps 50 000. Si on vous donne 50 000, il faut que vous soyez dans votre business plan, que vous nous montriez que ça va produire un plus, qu'avec 50 000, vous allez arriver à 100 000. Avec 100 000, vous allez avoir 180 employés. Avec 80, vous allez gravir, vous allez arriver comme Madame Ticia, et plus tard, qui sait, vous allez devenir millionnaire ou plus que millionnaire. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui ont cru.
Il y a une dame qui a demandé est-ce que le FOGEC ne va pas chercher à avoir des parts ou des capitaux.
Et voilà, pendant également, dans nos missions, nous pouvons également avoir des actions. Donc, dans les missions qui nous sont données, si vous avez un bon projet, on est permis, on peut avoir des participations. Vous nous emmenez votre projet, c'est un projet qui est acceptable, qui est vendable, qui est viable. Vous venez, vous nous le présentez, nos actions. L'idée, c'est de quoi? Nous avons des actions, non pas pour avoir des dividendes, mais parce qu'on sait que, par exemple, il y a des étudiants qui sont là, ils n'ont pas d'argent. Alors, nous achetons ces actions de telle sorte que vous allez continuer à bénéficier. Après, à la fin, nous allons voir comment nous retirer, mais sans avoir des dividendes derrière. Donc, il y a ça également qui intervient. Et je veux corriger, nous ne faisons pas seulement de l'innovation. Nous finançons également du commerce. Mais quel commerce? Pas le commerce qui va à Dubaï. Vous venez, vous allez à Dubaï, ou vous allez à...
Ou en Guangzhou,
ça non. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons encourager? Nous voulons encourager la production locale. Par exemple, quelqu'un qui vend de l'eau panille et tout le reste, mais du moment que toi, tu peux acheter, il est grossiste, tu viens vendre ici, il y a maman qui vendait les boudins, c'était du boudin produit ailleurs, mais du moment que c'est produit localement, ça a des intérêts, l'État profite, tu as une main d'œuvre que tu peux avoir localement, nous allons financer. Ça également, nous finançons. Alors, je veux voir la... je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais si jamais il y a quelques questions qui me revenaient, voilà, je vais passer la parole à Madame Ticia pour les compléments.
Bien, Madame Ticia.
Merci. Alors, je vais commencer par l'entrepreneur qui se fait manger ses
boudins à la maison.
Il y a quelque chose que Mademoiselle a dit qui est très parlant, c'est que vous ne voulez pas être entrepreneur, vous voulez être journaliste. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur et qu'effectivement, ce n'est pas fait pour vous. Ce dont vous avez besoin, c'est un job étudiant. S'il est payé 2000 dollars, comme dans mon exemple, tant mieux, mais c'est un job étudiant pour arriver à votre objectif qui est de devenir journaliste. Donc, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, si je me trompe, ce n'est pas vraiment votre truc. Vous avez plutôt fait ça pour avoir de l'argent pour dépanner et pour pouvoir vous soulager vos parents. N'est-ce pas? À moins que j'ai mal compris la question. Ensuite, il y avait la question sur l'entrepreneuriat industriel. Alors, je ne sais plus où est le monsieur. Il est là. Ouais. L'entrepreneuriat industriel sur la savonnerie. Alors, pour les machines, ça fait aussi partie du plan d'action, savoir quelles machines on peut avoir. Vous regardez sur Internet, tout simplement. Est-ce que ma machine, je vais la trouver? En général, c'est en Inde, en Chine, en Turquie ou en Allemagne. Et puis là, vous voyez comment vous pouvez, grâce au FOGEC, grâce à d'autres plans de subvention, avoir l'argent pour acheter vos machines, être dans le code de l'investissement de la NAPI pour ne pas payer les droits de douane parce que ça peut monter vraiment très haut. Notre pays a un gros problème avec ça. Et puis voilà, avoir votre machine et puis surtout réfléchir, votre usine, elle sera où? Parce que si vous n'avez pas d'électricité, votre usine va coûter très cher. Donc, en fait, il y a beaucoup de freins à l'entrepreneuriat. On n'en a pas parlé, oui. Mais il y a beaucoup de freins à l'entrepreneuriat qui ne sont pas négligeables. Puis, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le plan d'action? À quelles questions il faut répondre? Je vais me baser sur votre exemple de savon. La première question, c'est quel est mon projet? On va rester avec le savon. Quel est mon projet? C'est de faire une savonnerie. OK. À qui s'adresse mon produit? Par exemple, mon produit s'adresse aux bébés. Donc, c'est pour les mamans. Où sont mes clients? Le produit s'adresse aux bébés, mais vos clients, ce sont les mamans. Ce n'est pas les bébés qui vont acheter vos produits. Donc, vous devez faire un marketing qui parle aux clients qui achètent, qui a l'argent. Ce sont les mamans, même si le produit est pour les bébés. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Maintenant, vous allez commencer à réfléchir. Qu'achètent mes clients? Ils achètent telle marque. Pourquoi? À quel prix? Comment, moi, je peux me différencier de la concurrence? Parce que mon savon, il est bio, parce qu'il est fait à base de je ne sais pas quoi, de menthe.
Quelle est la valeur ajoutée?
Voilà, la valeur ajoutée, ce qui me rend unique. Donc, une fois que vous répondez à toutes ces questions, vous allez répondre à la question comment je peux réaliser mon projet. Je peux réaliser mon projet en ayant cette machine. Où se trouvent les machines? Combien coûtent-elles? Et là, vous avez déjà fait 90% de votre business plan sans vous rendre compte. La dernière partie, les 10%, c'est la partie comptabilité, c'est-à-dire comment vous allez gagner assez d'argent pour rembourser les machines que vous avez achetées et vous faire de l'argent. Mais ça, il faut vraiment l'intégrer. Et à la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, où je suis vice-présidente, on peut discuter de ça
Donc il faut se faire coacher.
Il ne faut pas avoir honte d'accord. de se faire coacher. Alors par contre, avant de redonner le micro, quand vous faites un business plan, s'il vous plaît, mettez tous les détails, mais ne faites pas lire ce business plan à tout le monde, même à votre coach. Parce que si vous pouvez avoir l'idée du savon, je ne connais pas votre stratégie. Mais si vous me donnez tout, et que moi j'ai l'argent, parce que votre projet coûte 20 000 dollars, moi j'ai les 20 000 dollars, vous devez faire le faux GEC, vous devez attendre, je prends votre projet, je vais vite le réaliser.
Ça veut dire qu'il y a des voleurs de projets.
Mais bien entendu, il y a des voleurs de projets partout. Mais même si vous sécurisez le projet, le temps que vous m'emmenez à la justice, le juge, je l'ai déjà payé, enfin, laissez tomber. Il faut vraiment faire un business plan. Il y a celui qui est pour vous et celui que vous partagez. Et vous ne partagez pas toute la stratégie comme ça. Vous restez vague. Vous n'allez pas dire ma machine, je l'achète en Inde, chez monsieur Palikou. Non, vous restez vague. Donc ça, c'est très important. Et aussi très important avec qui vous vous associez. Parce qu'on parle beaucoup de financement.
Oui.
Même si moi, j'ai l'air gentil. Si je vous dis, ah, je vais te donner 20 000 dollars, donne-moi seulement 80% de ta société, non. Même si c'est le pasteur, même si c'est l'oncle qui est gentil, non.
Non.
Parce qu'on va vous piquer votre société, vous n'aurez même pas le temps de dire ouf que vous êtes déjà out de la société.
D'accord. Coach Eugène Candolo.
Je veux juste compléter. Parmi les difficultés qui ont été relevées pour les entrepreneurs et sur lesquelles le projet qui est en train de se baser, je pense qu'il y a une dame qui a posé la question.
D'accord. Coach Eugène, il y a un étudiant qui a posé la question. Il a son projet. On lui dit, tu verses la moitié du financement dans un compte alors qu'il n'a que ses syllabus. Alors, il est découragé.
Bon, en matière d'entrepreneuriat, je ne sais pas ce genre de cas de figure où tu amènes ton projet, on te demande de verser la moitié. Peut-être qu'il est dans des projets socio-économiques de trucs. Mais ce qui est vrai, ce que je conseille souvent aux jeunes, tu ne peux pas sortir, parce qu'il parlait de sortir de l'université. Tu ne peux pas sortir de l'université, tu veux directement implémenter un projet de 100 000 dollars, alors que tu n'as jamais fait quelque chose de 100 dollars et on a vu que ça a réussi. Donc c'est très important, et on l'a dit tout à l'heure, il faut respecter les étapes. Si, comment tu peux imaginer qu'une banque ou un bailleur de fonds ou un business angel peut parvenir à croire en ton projet si toi-même tu ne crois pas en ton projet? Alors si tu crois en ton projet, il faut savoir quels sont les petits projets que tu peux faire qui peuvent en fait t'amener ou bien te crédibiliser. Parce que quand on finance le projet, on voit aussi la capacité, on a parlé des compétences ici, et comment tu as organisé cela. Si tu pars de théorie et que tu dis que tu as besoin de 100 000 dollars, mon cher ami, même moi je ne te donne pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu puisses donner des garanties. Quand on parle de garanties, ce n'est pas seulement la fiche parcellaire. Le garantie aussi en termes de crédibilité comme personnalité. Donc il faut commencer petit. Tu ne peux pas aujourd'hui, même si j'ai une grande vision d'avoir la plus grande maison d'édition avec toute la chaîne possible et des matériels d'imprimerie sur place, je ne peux pas commencer directement avec des matériels qui coûtent 70 000, une soleuse qui coûte 60 000, une rogneuse qui coûte 90 000. Je commence progressivement, je vois quel type de service je peux faire. Pour le moment, je fais de l'accompagnement littéraire, ça me demande quoi, la personne paye quoi, j'accompagne à quel niveau, et progressivement, je me fais une crédibilité. Et par rapport à ça, je peux me présenter un jour, dire, bon voilà, mon projet coûte 230 000 dollars, j'ai besoin de ça, et je comprends ce que j'ai fait. Tu ne peux pas sortir de l'université et demander de l'argent. Donc, ça ne sourit pas.
La grande difficulté que les jeunes rencontrent, c'est le financement. Certains disent, on a des projets, mais il n'y a pas d'argent.
Le financement n'a jamais été du tout un problème.
Oui, et puis, il y a financement et financement. Quand vous faites votre anniversaire, tout le monde va cotiser pour vous acheter un petit quelque chose. Le jour où vous allez vous marier, tout le monde va cotiser pour la dot et le mariage et consorts. On est mortel, le jour où on va mourir, les gens vont cotiser aussi pour nous enterrer. Mais faites la même chose avec votre entreprise. allez voir votre famille, c'est ce qu'on appelle le love money, hein, c'est l'argent de l'amour, allez voir votre famille, vous les réunissez tous, vous leur expliquez, voilà, moi je veux vendre.
Ah bon?
S'il vous plaît, ce qu'elle dit, c'est une vérité. Nous, nous avons financé, s'il vous plaît, nous avons financé une personne, s'il vous plaît.
Suivez, s'il vous plaît.
Ce n'est pas de l'histoire qu'on est en train de raconter pour vous amuser.
Ce n'est pas impossible.
Nous avons eu un monsieur qui a commencé, camarade.
Du calme, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Nous avons eu un monsieur que nous avons financé, qui lui faisait des forages. C'est sa famille qui a financé à 90% le début. Et celui-là en était tenu. Donc, comme elle a dit, ce ne sont pas des histoires qui existent. Faites du love money et ça marche également.
Ça marche.
Mais oui, parce que, en fait, c'est quoi? C'est que si les gens ne vous prêtent pas, c'est parce qu'ils se disent que vous allez faire des aventures. Mais si vous expliquez par A plus B, vous répondez à toutes les questions en disant, voilà, j'ai ce projet, je vais faire ça avec le projet, je vais récupérer l'argent comme ça, je vais le vendre chez telle personne. On voit que vous êtes organisé, sérieux, on vous prête peut-être un peu au départ, vous faites fructifier cet argent, puis après les gens vont vous prêter. Moi, quand j'ai commencé avec mon café, la personne qui me combattait le plus, c'était mon père, qui me disait, ça ne va pas marcher. Mon mari, maintenant, qui était à l'époque mon petit copain, me disait « ça ne marchera pas ». Mais quand ils ont commencé à avoir un magasin, deux magasins, une deuxième ville, mais quand on leur disait « mais ta femme, elle fait un boulot incroyable, mais ta fille fait un boulot incroyable », ils étaient là « oui,
moi depuis le début ».
Non, mais c'est parce qu'au départ, ils se disaient « mais du café à Kinshasa, mais ça ne marchera pas ». Mais quand ils voient que ça fructifie, ce sont les premiers à dire « tiens, est-ce que je peux investir un petit $1,000 dans ta société? Tu me rends ça dans 6 mois et consort et consort. » Donc c'est
mais
ça.
Mais Tissia, généralement, les étudiants ont des téléphones qui coûtent cher. Et ça peut constituer un capital pour démarrer aussi une entreprise. Bien, on va. Bien, on va prendre la dernière série de questions avant de conclure cette émission. Trois questions et on va atterrir.
Pour la parole.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je suis Kasséo Raphaël, étudiant en L1 économie à l'université de Kinshasa. J'ai l'impression que vous parlez trop de l'entrepreneuriat à nécessité. Ce qui porte des activités de survie, de débrouillardisme qui est faible à valeur ajoutée. C'est souvent l'entrepreneuriat aux structures informelles et rudimentaires que Madame Lydie a parlé.
Madame Tissé, alors quelle est votre question, monsieur?
Maintenant, j'aimerais dire ceci. Il existe-t-il un fonds de soutien aux PME en RDC, puisqu'il relève aussi de la part de l'État? Et aussi, pourquoi l'entrepreneuriat?
Il y a le FOGEC déjà qui est là.
Le FOGEC est là. Mais souvent, il y a des gens qui ont leur projet, mais dès qu'ils se présentent à la FOGEC, il y a toujours des rétrocommissions que certaines personnes demandent. Ça, c'est une réalité qui se vit à Kinshasa. Si l'on prend les secteurs d'activité des jeunes universitaires congolais, souvent la majorité, ils existent dans la restauration, les transports urbains, ce qui n'est pas permis chez eux là-bas, la FOGEC, d'être financé. Vous voyez un peu. Et ma deuxième question, c'est pourquoi l'entreprise et l'entrepreneuriat est-il improductif à Kinshasa, précisément?
L'entrepreneuriat est improductif. Y a-t-il des statistiques? Y a une étude qui a été faite là-dessus?
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yemba Gloire Marie-Claire. Je suis en G1, LM2, en fait. D'accord, LM2. LME, bien sûr. Ah! Et pardon. Bon, peu importe. Je parle.
D'accord, camarade. Oh. Bien, on va suivre sa question. D'accord. C'est LM1, c'est ça?
Oui, bien sûr.
LMD1.
Un tellement.
L1 LMD, d'accord.
Bon, comprenez.
C'est bon,
allons-y. En fait. Donc, je m'adresse à Madame Tissia. Je vois qu'elle est vraiment très émue, très enthousiasmée par rapport à votre parcours.
Oui. Du calme.
Que... Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes entrepreneurs, mais aussi de dire aux jeunes gens qui, en fait, de ne pas suivre le bouc émissaire? Donc, ce sont des gens-là qui donnent de mauvais conseils, qui sont là parce que eux n'ont pas réussi dans leur vie et ils donnent de mauvaises idées. Voilà, tu ne peux pas réussir parce que tu n'es pas assez capable de faire ceci, cela. Quels sont de très, très bons conseils pourriez-vous donner à nous, voilà, les jeunes entrepreneurs?
Par rapport à ces gens-là qui vous découragent souvent. Comment? Alors, on est arrivé à la fin. On va donner la parole. Madame Titia, vous avez la parole. Comment?
C'est le temps, les journalistes, c'est le temps.
Bon, le temps, Marcel me dit qu'on n'a plus assez de temps. Alors, on prend la dernière question. Marcel, on peut donner à la dame au fond. Il y a madame, la demoiselle au fond. C'est la toute dernière question. Et on va conclure. Rapidement.
Merci beaucoup pour la question. Je m'appelle Jeancette Ekembe. Je suis étudiante en L1 journalisme et politique extérieure. Ma question s'adresse à madame... Excusez-moi.
Madame Hélène Otisia.
Oui, madame Titia. Madame Titia Mukuna. Madame, au moment où vous avez plusieurs projets et que vous n'avez pas l'argent, vous jugez bon de vendre un de tes projets pour financer un autre projet que tu en as. Cette idée est bonne ou pas?
Merci beaucoup. Madame Titia, à vous la parole.
C'est fini.
C'est fini.
Je veux juste, avant que madame Titia ne prenne la parole, je veux juste, mon frère qui a fait des affirmations, des allégations qui n'étaient pas correctes.
Les rétrocommissions.
Rétrocommissions au FOGEC. Lorsque vous avez suivi notre lancement, lorsque vous avez remis, le directeur général a lui-même dit en personne devant la presse, si jamais il y a quelqu'un qui venait vous demander de l'argent pour vous avoir donné des prêts, venez le plaindre auprès de nous. Donc ne faites pas des affirmations sur des histoires qui n'existent pas. S'il vous plaît, au FOGEC, nous avons sélectionné 10 entrepreneurs que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève, qui ont juste déposé leur dossier chez nous, que nous avons financé. S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas des allégations qui ne sont pas correctes. Vous êtes dans le journalisme, vous connaissez ça mieux que moi. Merci.
Bon, d'accord, merci. Madame Titia, à vous la parole.
Okay.
Rapidement, on va conclure.
Alors, ma question c'était comment répondre aux personnes qui essaient de lutter contre nos projets. Déjà, il y a une première chose, quand on veut entreprendre, il faut, excusez-moi du terme, nettoyer son entourage. Vous ne pouvez pas rester avec des gens qui vous tirent vers le bas et loin de vos objectifs en pensant que vous allez vous développer. Pendant que vous pensez à développer votre société, eux, ils vont vous emmener dans des bruits qui ne servent à rien.
D'accord.
Donc déjà, nettoyer l'entourage, être sérieux.
D'accord.
Parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi s'inquiéter pour vous en donnant des conseils, mais les conseils ne sont pas bons. Donc, juste gardez votre sérieux.
Merci. On va conclure là. Coach Eugène, en 10 secondes, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Alors, il y avait une très bonne question sur
oui,
le
oui.
projet.
Allez-y.
À vendre. Je ne vais jamais conseiller de vendre un projet 100%. Essayez de trouver des associés, mais toujours rester actionnaire majoritaire. Ne laissez jamais votre majorité basculer.
Coach Eugène, on va conclure en 10 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bon, on peut retenir que dans la vie est faite de choix. Donc, si on veut être entrepreneur, il faudrait qu'on s'assume. Premièrement, on doit avoir une vision. Deuxièmement, on doit se poser des questions sur les compétences pour accomplir cette vision. Et les compétences, il y a deux sources de compétences. Ça peut être une source innée, tout comme ça peut être une source acquise. En tout état de cause, vous devez toujours apprendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se remet en cause à tout moment.
Merci, merci.
Qui cherche à apprendre et qui a
l'idée. Sous vos applaudissements, applaudissez très, très, très fort. C'est par ici que s'achève l'émission au Capi Service en direct d'Elifasic. Émission sur l'emploi et l'entrepreneuriat sous vos applaudissements. Merci à tous les intervenants et merci à toute l'équipe de production. À la prochaine.
on sert ça ici aux étudiants.